7h44 à Paris, merci à vous d'écouter RFI. On est ensemble jusqu'à 9h dans 2 minutes, la revue de presse africaine. Mais d'abord, les principaux titres de l'actualité internationale.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
Et l'actualité dominée bien sûr ce matin par cet accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas, officialisé hier après de longues négociations et 15 mois d'une guerre particulièrement sanglante. Accord en 3 phases qui doit entrer en vigueur dimanche et qui prévoit d'abord une trêve, la libération de 33 otages israéliens en échange d'un millier de prisonniers palestiniens et une aide humanitaire accrue. La mise en œuvre de cet accord sera suivie par les 3 pays médiateurs, Égypte, Qatar, États-Unis. Il y a toutefois des incertitudes encore à ce stade. Israël parle de détails à régler. Les membres de l'extrême droite en Israël, membres de la coalition au pouvoir, pourraient ne pas valider ce texte. En tout cas, ils parlent d'une capitulation. On en parle dans le prochain journal et avec nos invités à 8h15. À noter que ce matin, la défense civile de Gaza fait état de 7 morts après des frappes israéliennes menées sur la ville de Gaza. La Russie a lancé hier près de 120 missiles et drones contre le réseau énergétique ukrainien. Ces frappes interviennent au lendemain de la revendication par l'Ukraine de l'attaque la plus massive sur le sol russe depuis le début de la guerre, qui a visé, selon l'Ukraine, des sites industriels et militaires dans plusieurs régions. Attaque intervenue pendant la visite du président ukrainien en Pologne. Le premier ministre polonais assure que Varsovie contribuera à accélérer l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Les ministres des provinces ainsi que le premier ministre canadien ont tenu hier une rencontre pour discuter de la marche à suivre face aux menaces de droits de douane imposées par la future équipe de Donald Trump, le président américain élu qui sera investi le 20 janvier prochain. Le Canada pourrait imposer en rétorsion des droits de douane d'une valeur allant jusqu'à 102 milliards d'euros sur des importations américaines. Les États-Unis avec une accalmie sur le front des incendies qui touchent depuis une semaine Los Angeles et sa région. Les vents forts qui attisaient les flammes jusque-là se sont calmés hier. Les services météo américains parlent même de brise dans les prochains jours qui devrait apporter l'humidité nécessaire. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une de la presse africaine, tension et incertitude au Mozambique.
Daniel Chapo, président élu du Mozambique, a prêté serment hier matin dans une capitale, Maputo, placée sous haute sécurité, relève le Monde Afrique. Après 3 mois de violence, de pillage et de grève à répétition qui paralysent le pays depuis la proclamation des résultats de l'élection du 9 octobre, le centre-ville de Maputo était quadrillé par les forces de l'ordre. Une autorisation était nécessaire pour accéder aux abords de la place de l'indépendance où se tenait la cérémonie d'investiture du successeur de Philippe Nyusi. Le premier défi de Daniel Chapo sera de sortir le pays de son marasme politique et d'une crise post-électorale qui a déjà fait plus de 300 morts. L'investiture de Daniel Chapo comme président du Mozambique, un événement censé marquer un nouveau départ pour ce pays d'Afrique australe, plonge en réalité le pays dans une atmosphère de tension et d'incertitude, renchérit le site afrique.com. Tandis que les partisans de l'opposant Venancio Mondlane multiplient les appels à manifester, les promesses d'unité et de dialogue du nouveau chef d'État sont mises à rude épreuve.
Venancio Mondlane qui conteste toujours la victoire de Daniel Chapo et ses partisans ne faiblissent pas.
Oui, l'image est malheureusement classique. En Afrique, soupire le Djeli, en Guinée, une élection à la régularité plus que douteuse, mais un pouvoir qui s'en moque et une opposition déterminée à obtenir par la rue la victoire qui lui a été refusée par les urnes. Et une répression aveugle et sourde menée par les forces de l'ordre. Pour le site guinéen, il est évident pour tout le monde que la victoire du président a été volée, mais puisque les institutions en charge de certifier les résultats se sont rangés du côté du mensonge, on ne peut que s'en contenter. L'élection que revendique aujourd'hui Daniel Chapo, le candidat du Frelimo, ressemble beaucoup à celle d'Ali Bongo Ondimba en 2016 face à Jinping ou encore à la victoire attribuée en 2018 à Félix Tshisekedi en RDC face à Martin Fayulu.
Pour le pays à Ouagadougou, que l'élection ait été volée ou pas, le soutien populaire dont bénéficie le leader de l'opposition est le signe que le parti historique au pouvoir est aujourd'hui loin de répondre aux aspirations du peuple mozambicain.
Oui, et au-delà de la décision de la Cour constitutionnelle, poursuit le quotidien ouagalais, les résultats fortement contestés de ce scrutin appellent le Frelimo à une véritable introspection, et ce, dans un contexte sous-régional où d'autres partis historiques, comme l'ANC en Afrique du Sud ou encore la ZANU-PF au Zimbabwe, connaissent un net recul au sein de leurs opinions nationales. C'est dire aussi la montagne de défis qui attendent le nouveau président, pointe encore le pays, à commencer par l'apaisement du climat social. Il lui appartient donc de savoir tendre la main à l'opposition à l'effet d'ouvrir un dialogue constructif ainsi que des négociations visant à mettre fin aux violences en cours dans le pays.
Wacket Serra, toujours au Burkina, s'interroge en écho.
Jusqu'où ira donc le Frelimo pour garder la main dans un pays où son pouvoir ne fait plus recette, notamment auprès d'une jeunesse désabusée, confrontée au manque d'emploi, à une économie exsangue et à la vie chère, et guettée par un avenir sans perspective réelle? Le Frelimo finira-t-il par lâcher du lest pour répondre à la volonté du peuple? Le Frelimo acceptera-t-il ou sera-t-il contraint d'une manière ou d'une autre à partager le pouvoir avec son opposition, à défaut de quitter les affaires? Qui pourra trouver les solutions à cette équation à plusieurs inconnus? Tout porte à croire que chaque parti restera campé sur ses positions, prêt à tirer la corde jusqu'à la casser.
Enfin, on revient au monde Afrique, pour qui Daniel Chapo ne peut aujourd'hui sortir de l'impasse politique qu'en tendant la main à l'opposition.
Oui, il faudrait que dans les prochains jours, Daniel Chapo nomme un gouvernement avec des ministres issus des partis de l'opposition et de la société civile mozambicaine, considère Éric Morier-Genoux, professeur d'histoire de l'Afrique à l'université Queen's de Belfast. C'est nécessaire, poursuit-il, pour créer un gouvernement inclusif et pour lancer une nouvelle dynamique dans le pays.
Frédéric Couteau pour la revue de presse africaine.
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
C'est un témoignage glaçant et rare que vous avez pu entendre hier sur notre antenne, celui de ce ressortissant camerounais qui s'est retrouvé, bien malgré lui, sur le front ukrainien à combattre pour la Russie. Dans ses mots, l'horreur d'une guerre dans laquelle il se retrouve plongé après avoir été dupé par une fausse promesse d'emploi en Russie. Les Africains en première ligne, les Russes restent au camp, c'est ce qu'il confie. Article sur la longueur à retrouver sur notre site internet RFI.fr. Ce matin, autre témoignage, cette fois une femme dont le mari a semble-t-il vécu la même chose, partie pour la Russie dans la promesse de gagner la Pologne. Faute d'argent, il a signé un contrat pour une formation militaire, puis envoyé en mission après seulement quelques semaines à son corps défendant. Aujourd'hui, Linda, un prénom d'emprunt, n'a plus de nouvelles et elle veut alerter sur cette situation. Au micro de François Mazet.
Linda, bonjour. Pourquoi votre mari a-t-il décidé de partir pour la Russie? Quelles étaient ses intentions?
Déjà, il ne partait pas en Russie. Bon, il partait en Pologne. Mais le service d'immigration par lequel il avait fait la procédure, lui ont dit qu'il va d'abord s'arrêter en Russie. Quelque temps, le temps pour eux de le relancer pour la Pologne. Bon, ils ont dit que quand il va arriver en Russie là-bas, il va travailler quelques mois. Ils ont dit qu'ils vont le loger et puis ils vont refaire les papiers. Ils vont aller en Pologne. C'était une agence camerounaise, effectivement. Bon, il n'était pas trop entré dans les détails, il ne m'avait pas trop expliqué. Il m'avait juste dit qu'il allait vivre chez un monsieur. Le temps pour eux de lui trouver du travail là-bas en Russie. On lui a demandé d'avoir une somme d'argent, 1 million. Qu'il lui faut 1 million, qu'ils vont convertir ça en robe pour qu'il puisse s'en sortir les premiers temps là-bas en Russie avec. Bon, vu qu'il n'avait pas les 1 million et il avait déjà payé le billet d'avion, ils l'ont proposé l'armée. La veille, ils lui disent qu'ils l'ont donné du bon côté. Enfin, ils l'ont donné les avantages de l'armée. C'est juste une formation. Il n'y a rien de danger qu'ils doivent avoir. Ils ne doivent pas avoir peur.
Le 5 juin, il doit quitter Douala. Et le 4 juin, alors qu'il n'a pas le million qu'on lui demande pour son arrivée, on lui dit, tu viens quand même. Et si tu n'as pas les moyens, ce n'est pas grave. Tu peux aller faire une formation militaire pendant quelques mois. C'est ça qu'on lui a dit.
C'est ça, en fait, c'est ça.
Et à aucun moment, on lui a dit qu'il irait combattre.
On ne lui a jamais dit ça.
Il n'avait pas l'air inquiet.
Non, parce que le monsieur lui a mis en confiance. Bon, vu qu'il a compris qu'on va le payer plus de 2 millions, ça a mis les étincelles dans ses yeux et il a fait le choix de l'armée.
On est au mois de juin, il arrive à Moscou et donc il est envoyé dans un camp militaire. Qu'est-ce qu'il vous raconte?
Ils sont d'abord allés à Peskov. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit ça. Ils étaient à 3 quand ils sont arrivés à Peskov.
Avec deux autres Camerounais.
Oui, deux autres Camerounais qui l'ont rattrapé à l'aéroport. Là-bas, ils n'ont même pas fait 2 semaines. La situation était déplorable là-bas. Il me dit que vraiment, c'est compliqué. Même où dormir, il n'y a pas moyen de dormir. Ce qu'on laisse à manger, c'est pas différent de la nourriture du chien. Bon, ils n'ont pas fait 2 semaines. Ils sont maintenant allés à Donetsk. On les a pris. C'était quand même un peu mieux parce qu'ils avaient une chambre là-bas. Ils avaient un lit. Et dans leur cuisine, ils avaient un frigo. Le frigo était rempli.
Les conditions matérielles étaient meilleures. Le problème, c'est que Donetsk, c'est juste à côté du front.
Voilà. Moi, je ne savais pas. Lui-même, il ne savait pas parce qu'il m'avait dit que des recherches que lui a faites, Donetsk, c'est une des villes de l'Ukraine que la Russie a pris. Mais il me disait quand même qu'ils entendaient souvent des coups de feu.
Et à quel moment il a compris qu'il allait devoir, à son tour, aller au combat?
Il m'avait appelé un soir. Il m'avait dit que durant le rassemblement, les commandants, les supérieurs l'ont pointé du doigt. Et il lui a dit qu'ils vont bientôt aller en mission.
Il avait fait 2 semaines de formation, en tout et pour tout, et on l'envoyait déjà.
On l'envoyait déjà. Bon, moi, j'avais tellement peur, parce que moi, je lui ai dit que ça, c'est déjà de l'arnaque. Ce qu'il me disait, c'était de prier parce qu'il me connaît comme une femme pieuse. Prier beaucoup pour lui.
Donc le 26 juillet à 17h, il apprend qu'il part en mission. Vers 20h30, oui. Vous discutez. Il vous dit de prier pour lui.
Oui.
Qu'il partait en mission pour 7 à 10 jours.
7 à 10 jours, oui.
Et c'est votre dernier contact.
C'est notre dernière conversation jusqu'à ce jour.
Tout cela, il l'a fait pour venir en aide à sa famille, à votre famille.
Ses parents, ils sont tellement pauvres. Et c'était lui qui était le pilier de sa famille. Bon, il est l'aîné d'une famille de 4 enfants. C'est lui qui payait la scolarité de ses petits frères. C'est lui qui envoyait l'argent à sa mère chaque semaine pour que sa mère puisse préparer. Son père ne travaillait plus parce qu'il avait les soucis de santé. Il m'a laissé avec un bébé parce que quand il partait, l'enfant, elle avait à peine 2 mois.
Qu'est-ce que vous demandez aux autorités de votre pays ?
C'est de nous aider à le retrouver, même s'il est mort. Et que si on le retrouve, même qu'il est vivant, qu'on le rapatrie au pays. Ses parents souffrent vraiment depuis qu'il n'est plus là. Ses parents ne dorment pas. Sa mère m'appelle chaque jour, elle pleure. Son père, pareil. Tout le monde est dépassé. Nous sommes tous inquiets. Vraiment, nous supplions l'autorité camerounaise à faire quelque chose pour nous. Parce que nous ne sommes pas quand même les seuls. Il y a plusieurs familles aussi dans cette situation. Et que s'il y a moyen d'arrêter même les services d'immigration, là, toutes ces personnes qui amènent leurs frères dans la mort, si on peut même mettre main sur ces gens pour les empêcher de continuer à faire du mal.
Merci, Linda.
Cet entretien avec François Mazet, tous ces témoignages, ce dossier complet est à retrouver sur le site d'RFI et sur nos réseaux sociaux. Maman, votre carte postale du Gondwana, comme chaque matin. Aujourd'hui, vous nous dites que dans la très très démocratique République, la lutte des classes est terminée depuis bien longtemps.
Oui, il faut arrêter de se faire des illusions. La lutte des classes est finie, les riches ont gagné. Eh oui, ça fait longtemps que la lutte finale a donné son verdict. Ça fait longtemps que les riches ont soulevé les pauvres par-dessus leur tête, comme dans le MMA, pour les balancer très fort sur le sol, KO avant même que le combat commence. Eh oui, la lutte des classes est terminée, finie, kaput. On est passé à autre chose. Sans même qu'on s'en rende compte. On est passé de la lutte des classes à la lutte des classes d'école. Ah oui, mes amis, c'est là-bas que ça se passe depuis très longtemps. La défaite des pauvres est actée, consommée, et sa perpétuation se joue dans les salles de classe. Tu ne comprends pas? Tu n'es pas d'accord? Ok, regarde comment ça se passe en très très démocratique république. Chez nous, on ne parle pas de riches et de pauvres. Hein. Non, chez nous, il y a les en haut de en haut et les en bas de en bas. Au milieu, il n'y a rien. C'est les en haut de en haut qui sont au volant du pays, ou plutôt c'est notre leader bien-aimé qui tient bien les commandes de l'avion Gondwana, les uns en première et business class, et tous les autres, même pas en classe éco, même pas dans l'avion, tous en bas, claqués au sol par la pauvreté, la classe populaire, les en bas de en bas, le nez toujours en l'air pour regarder l'avion aller et venir, parce que le billet est trop cher pour eux, et parce qu'ils n'ont même pas de passeport. Les uns, c'est-à-dire les en haut de en haut, prenant l'avion pour aller loin là-bas, scolariser leurs enfants, dans les meilleures écoles du monde, ces écoles où les classes ne sont pas en surnombre, ces classes où on ne fait pas 2 ou 3 shifts dans la journée, comme en Gondwana City, notre belle capitale, où les élèves font cours de 7h à 10h par ordre alphabétique, d'autres viennent de 10h30 à 13h30 et le dernier groupe de 14h à 17h dans la même classe, sur les mêmes bancs, parce qu'il n'y a pas assez de place. Non, là-bas, dans les meilleures écoles du monde, les enfants d'en haut sont dans des classes où les élèves se comptent sur les doigts de la main, apprennent avec les meilleurs profs, les meilleurs manuels et les meilleurs outils pour avoir les meilleurs diplômes afin de revenir au Gondwana, remplacer leurs parents en haut de en haut aux commandes de l'athlète très 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 démocratique république. Pendant ce temps, les enfants des en bas de en bas se débattent dans les écoles gondwanaises avec leurs classes claquées au sol, comme disent les jeunes, avec des profs et des manuels aussi claqués au sol pour obtenir des diplômes claqués au sol, reconnus seulement en très très démocratique république. Pendant que les uns sont sûrs de devenir PDG, banquier, financier, ingénieur, chirurgien, maître du monde, les autres rêvent de devenir footballeur, chanteur, influenceur. Et en attendant, ils font des vidéos sur TikTok. Elle est terminée, la lutte des classes. Les riches ont gagné. À lundi.
À lundi, Maman, RFI. Vous restez bien avec nous dans une minute, le journal de Jeanne Bartoli. Et ensuite, page spéciale avec nos invités. On revient sur cet accord de cessez-le-feu annoncé hier entre Israël et le Hamas. Quelle réaction? Quels espoirs dans la bande de Gaza et surtout quelle suite imaginer après cet accord en trois phases? On va en parler. Rendez-vous à 8h15.
Ce samedi sur RFI, le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, Bruno Faure.
Nous recevons le patron des patrons du Cameroun, Célestin Tawamba, fondateur d'un grand groupe dans l'agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique. Engagé pour le développement de son pays et de ses entreprises, il appelle à des réformes profondes de la gouvernance en Afrique.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Les dessous de l'Infox, Sophie Malibaud.
Les incendies monstres en Californie suscitent beaucoup de questions, beaucoup d'Infox aussi. Non seulement la désinformation gêne les secours et la gestion de la crise, mais en outre, elle altère le débat public sur le réchauffement climatique et sur les mesures d'adaptation nécessaires. On en parle avec François Jemaine, spécialiste de la gouvernance du climat.
Les dessous de l'Infox, avec Sophie Malibaud, tous les vendredis à partir de 17h30 TU sur RFI.